C'est mignon.
Laissez-moi vous présenter correctement les prochaines minutes. Ça risque d'être très intéressant. Nous avons par téléphone Luc Laliberté, qui est spécialiste en politique américaine. Il est du cégep Garneau, hein, c'est ça qu'on avait dit?
Oui.
Cégep Garneau. Actuellement, à Chicago, c'est la Convention des démocrates et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Nous allons parler de politique américaine un peu, parce que je te dirais que quand il fait tempête ou il fait beau aux États-Unis, il vente ou il vente moins au Canada. Ça peut arriver. Luc Laliberté, bon matin.
Ouais, bon matin à toute l'équipe, bon matin à vos auditeurs, auditrices.
On est content de t'avoir avec nous autres, ça va bien, la vie est bonne?
Oui, c'est pour quelqu'un comme moi, c'est un beau moment dans l'année parce qu'on se prépare pour une élection américaine. C'est une passion autant qu'une spécialité. Puis en plus, ben écoute, t'évoquais le cégep Garneau, on commence les cours demain. Donc toujours une belle période de l'année, deux raisons d'être enthousiaste.
C'est pour ça qu'on veut prendre le temps de t'en parler. J'aurais le goût de dire en partant, pourquoi c'est important pour nous, les Canadiens, de s'intéresser à ce qui se passe actuellement du côté américain?
Écoute, on a parfois, hein, quand on observe dans les médias, quand on observe sur les réseaux sociaux, les Américains, les gens sont pas indifférents à ça. C'est une société qui a eu historiquement et qui a encore énormément d'influence sur la nôtre. C'est une société souvent, hein, qui va polariser. En même temps, au-delà de ça ou au-dessus de ça, c'est notre partenaire économique, c'est notre partenaire en termes de sécurité le plus important. Ça fait déjà plus d'une centaine d'années qu'au plan économique, les États-Unis, c'est notre principal partenaire. Nos échanges se font essentiellement avec ce pays-là. Tu l'évoquais tantôt, hein, en parlant de tempête, en disant bien, s'il y a une tempête ou qu'il n'y en a pas, ils vendent fort de l'autre côté ou ils vendent moins fort. C'est un peu beaucoup ça. Et c'est un voisin, je trouve, qu'on connaît parfois mal. Et c'est ce qui fait que j'ai autant de plaisir à enseigner l'histoire américaine. Je prends pas position là-dedans en fonction d'un parti ou en fonction d'un groupe ou d'un autre. Dans un cours d'histoire, ma job ou mon travail, c'est d'expliquer d'où ils viennent et comment ils en sont arrivés là. Et ils ont une histoire qui est très spectaculaire. Parfois, elle peut être choquante, parfois, elle peut être enthousiasmante. Il y a des choses admirables, il y a eu des choses détestables, des tempêtes au sens propre en politique, il y en a eu de nombreuses. Et c'est très important de comprendre ça parce que le lendemain du 5 novembre, il va y avoir pour nous des retombées à ça. Et je serais curieux de voir, par exemple, ce que Pierre Poilievre, qui sera peut-être notre prochain premier ministre, ou M. Trudeau, je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'ils envisagent, eux, comme scénario, si Donald Trump l'emporte ou si Kamala Harris l'emporte. Mais ça va changer là-dedans.
Bien, c'est un peu ça ma deuxième question, Luc Laliberté. C'est les impacts sur nous. Si, mettons, Kamala Harris est élue, qu'est-ce qui arrive? Si Donald Trump est élu, quels sont les impacts pour nous, les Canadiens?
D'abord, la première chose, hein, parce qu'on a deux candidats qui ne peuvent pas être plus opposés que ce qu'on observe actuellement. Si on a suivi, c'est la période des conventions. Là, j'ai veillé tard hier pour écouter la troisième soirée de la Convention démocrate. Si on a suivi la Convention républicaine et qu'on a suivi la Convention démocrate, le choix, il ne peut pas être plus clair que ça. On a deux visions complètement opposées de comment on approche les problèmes aux États-Unis. Mais faut aussi retenir que ce soit un républicain ou que ce soit la démocrate qui se retrouve à la Maison-Blanche, ils sont d'abord et avant tout américains. C'est-à-dire que le Canada ne va pas gagner énormément ou ne va pas avoir beaucoup plus de leviers en négociant avec les États-Unis. Le président ou la présidente des États-Unis vont d'abord favoriser les intérêts américains. On fait affaire avec un géant, on fait affaire avec un pays qui est beaucoup plus lourd que nous, mais sur lequel on a quand même une certaine prise parce que il y a une trentaine d'États américains pour lesquels on est le plus grand partenaire. Donc, au-delà du président ou de la présidente, c'est intéressant de regarder ce qui se passe dans les 50 États américains parce qu'il y a des gouverneurs aux États-Unis qui veulent préserver des liens puis une bonne entente avec le Canada parce qu'on est leur premier partenaire économique. La principale retombée, je dirais, c'est que si Kamala Harris et les démocrates l'emportent, contrairement à ce qui arrive avec M. Trump, normalement, nos relations sont plus faciles. Donc, le discours est moins emporté, le discours est moins agressif dans certains cas. La relation entre M. Trump et M. Trudeau, elle n'a pas été très bonne. On se rappelle que M. Trump, quand il était venu dans Charlevoix, avait insulté le premier ministre sitôt de retour à bord de l'avion. Donc, travailler avec Donald Trump, c'est travailler avec plus d'imprévisibilité. Puis c'est aussi une vision, parce qu'il y a l'économie, mais on parle de la politique étrangère, de la lutte au changement climatique. Ce sont des choses dans lesquelles Donald Trump embarque moins ou pas. Donc, quand on regarde les alliés en termes de sécurité puis en termes de partenariat à l'international, en dehors de notre relation avec les États-Unis, M. Trump est beaucoup plus dur. Puis il travaille moins, finalement, en grand groupe ou en grande alliance que ne va le faire Kamala Harris, qui ne sera pas très différente pour ça de Joe Biden ou encore de Barack Obama, si on remonte jusqu'aux années Obama. Donc, la relation va en partant être moins naturelle, moins fluide. Okay. Mais attendez-vous pas, si c'est Kamala Harris qui gagne, à ce que ça devienne très facile pour le Canada. Okay. Ça ne l'est jamais de négocier avec un gros partenaire comme ça. Comparez ça et dites-vous que si on avait à négocier avec la Chine, ce serait la même chose.
Okay.
Donc, on ne parle pas des marchés, des économies, une influence qui sont similaires à ce que nous, on est.
Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine, il est sur les ondes du 91.9 le matin actuellement. Avec une remontée importante dans plusieurs États cruciaux, c'est comme si Kamala Harris était comme la saveur du jour. J'ai une question technique. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour la nommer ou tasser Biden, étant donné qu'on voit déjà comme des résultats ou une espèce de vent de fraîcheur? Pourquoi avoir attendu aussi longtemps?
Ah, ça, c'est la bonne question. Il y a des démocrates et comme commentateur dans les médias, c'était un peu mon opinion. Il y a des analystes ou des stratèges chez les démocrates, puis c'est ce que j'appuyais, qui pensaient que Joe Biden aurait dû se contenter de faire ce qu'il avait annoncé dans la campagne 2020. M. Biden avait dit « Je serai un président de transition ». Il faisait ça pour regrouper les gens autour de lui en disant, grosso modo, « Vous avez des doutes sur moi et sur mon âge, je serai pas là éternellement. Je suis là pour battre Donald Trump, faire un mandat et je vais m'en aller ensuite. » Et je pense qu'il a déçu à l'interne un certain nombre de gens en disant « Je vais être là aussi en 2024. Je reviens à la charge. » Joe Biden est quelqu'un, puis ils le sont tous. Il faut avoir ça en soi pour atteindre quelque chose d'aussi gros et important que la Maison-Blanche. Il est orgueilleux, il est convaincu de son talent. Et M. Biden a fait, somme toute, un bon travail. On peut toujours critiquer, mais son bilan est du côté positif. Il n'est pas dans le rouge, dans plein de volets. Je pense que c'était très difficile de convaincre M. Biden, qui est très expérimenté. C'était difficile de le convaincre, de se tasser, que c'était pas lui la meilleure personne. Mais il y a un avantage à ça. Il y a un inconvénient parce qu'on a bloqué la relève pendant un certain temps. Et peut-être que c'est pas Kamala Harris qui se serait imposé si on avait commencé le travail avant. Si M. Biden avait annoncé ça plus tôt, il y aurait eu une lutte plus farouche que ce qu'on a vu. Donc, c'est peut-être pas Kamala Harris qui était là. Mais en changeant aussi tard, tu disais tout à l'heure, elle est la saveur du mois. On espère que ça va être la saveur du 3 mois. Donc, on s'est rangé derrière elle très, très rapidement parce qu'on n'a pas le choix, on est en élection. Rarement les démocrates sont aussi unis que ça. Habituellement, ils sont les champions des batailles sur la place publique. On se divise, puis on lave notre linge sale devant les gens, les journalistes le savent. Et moi, c'est une des choses qui m'étonne, à quel point on est unis. On sait bien que c'est pas facile, puis que dans les coulisses, ça doit jouer dur. Mais ce qu'on montre aux journalistes et ce qu'on montre à la population, surtout depuis 3 jours, c'est qu'on est unis, on est soudés, puis on a un message qui est positif. Et ce qu'on espère, c'est que cet engouement-là, cette petite vague-là qu'il y a en faveur de Kamala Harris, elle va nous porter jusqu'au 5 novembre. On aurait eu plus de temps pour l'attaquer puis pour venir à bout de cette vague-là si ça s'était fait des mois à l'avance. De le faire aussi tard que ça, ça nous permet de vendre ça. C'est un sprint plutôt qu'un marathon. Puis dans un sprint qu'on a bien démarré chez les démocrates, il suffit de voir maintenant si on est capable de le garder, mais dans un sprint, c'est plus facile de vendre comme ça l'enthousiasme, la vision positive, le futur. Ça semble être les grandes idées que les démocrates tentent de nous passer.
Si Kamala Harris remporte pas, qu'elle ne devient pas présidente des États-Unis, comment on va décider si les États-Unis n'étaient pas prêts pour une femme présidente ou si c'est juste parce que les démocrates n'ont pas gagné?
Ah, ça, c'est une grosse question. J'ai envie de te dire, au moment où on se parle, Kamala Harris est légèrement désavantagée, comme Barack Obama l'était, parce qu'il était le premier noir. Mais c'est difficile de mettre un chiffre là-dessus. Je pense que c'est moins important pour Kamala Harris que ça l'était pour Mme Clinton. Mme Clinton, elle avait, entre guillemets, deux handicaps. C'était pas hein, sa compétence ou son expérience qu'on mettait en question. Les Clinton, ils polarisent, ils divisent. Donc, à l'époque, on aimait, on adorait Clinton, ou on n'était pas capable de l'avoir en peinture. Donc, il y avait le fait que c'était une femme, c'est pas tout le monde qui est prêt pour ça. Mais pour Obama, on avait fixé que c'était à peu près un handicap de 5 %. Ça le pénalisait de 5 % d'être noir, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'étaient pas prêtes, qui ne voulaient absolument pas d'une personne de couleur à la Maison-Blanche. C'est plus difficile, ce chiffre-là, à évaluer. Mais je pense qu'il est moins important pour Kamala Harris qu'il l'était pour Hillary Clinton. Et ça ne semble pas la pénaliser, ou en tout cas beaucoup moins la pénaliser, dans une année où un des trois ou quatre gros enjeux de la campagne, ça va être la position des républicains sur l'avortement. Donc, il y a même des femmes républicaines qui se sont manifestées dans des États conservateurs pour dire ce que la Cour suprême a décidé, c'est-à-dire hein, de pelleter dans la Cour des États la question de l'avortement. Mais donc, on l'avait décriminalisé en 1973, l'avortement, que la Cour suprême ait annulé ça en disant « chaque État le décidera ». Il y a beaucoup de femmes, incluant des femmes conservatrices, qui ne l'ont pas pris. Donc, s'il y a un léger handicap encore aujourd'hui à être une femme, puis je répète, c'est très difficile à évaluer, on peut penser que cette question-là de l'avortement rend la présence de Mme Harris plus intéressante que l'était celle de Mme Clinton à l'époque, bien avant la décision de la Cour suprême.
Je comprends très bien.
Est-ce que sa prise de parole ce soir à la Convention démocrate, c'est un peu son premier grand test, à savoir où ça pourrait jouer une grande différence dans la suite des choses?
c'est une course à étapes. Hein? C'est une 500 du mètre haie auquel on assiste. On vient de quitter les Jeux olympiques. Sa première grande épreuve, c'est est-ce que les démocrates, d'abord, vont accepter que Joe Biden parte comme ça puis qu'on la couronne, parce qu'il n'y a pas eu de véritable course ou de lutte. Donc, est-ce qu'on va accepter ça puis est-ce qu'on va être enthousiaste? Ça, un républicain n'est peut-être pas enthousiaste, on va en convenir, là, c'est l'adversaire puis on ne votera jamais pour elle. Mais c'est très clair dans les sondages et pendant la convention qu'elle a réussi à franchir sa première haie brillamment. Elle a redonné une énergie hein, puis elle a mobilisé les troupes, puis c'est important parce que ce qui va se décider le 5 novembre, oubliez les gros gains dans les sondages, on se bat pour des miettes. Il n'en reste pas beaucoup d'électeurs à aller chercher, ceux dont l'idée n'est pas faite. Donc, il faut que ceux qui votent pour nous aillent voter. Alors, je dirais, la première, elle l'a franchie. La deuxième, c'est ce soir. Donc, on a eu un grand nombre, on peut aimer les idées ou pas, selon notre profil hein, idéologique ou politique, mais je pense qu'on a eu, on peut dire honnêtement, objectivement, qu'il y a eu de très, très bons discours, de très, très bons orateurs. Et son colistier, hier, a impressionné plein de gens. C'est M. Tout-le-Monde, Tim Walz, hein, le gouverneur du Minnesota. Et il a parlé aux Américains comme bien les Américains se parlent entre eux. Des fois, on dit que les démocrates, c'est une partie des élites hein, de la côte Est ou des grandes villes ou de la côte Ouest, comme Mme Harris. Tim Walz a été très bon hier. Il y a plein de gens qui se sont reconnus. Mais en plus, il a été émouvant. On parlait ce matin de son fils, là, qui on appelle ça neurodivergent. Mais donc, on est dans le spectre de l'autisme ou de cette thématique-là. On l'a vu pleurer, son fils, hier, hein, exprimer des émotions, parler de son père. Je pense qu'il y a eu un courant émotif très fort. Donc, Mme Harris arrive après plein de bons et de grands orateurs. Elle arrive après son colistier qui vient d'aller chercher du contenu puis de l'émotion. Est-ce qu'elle va être à la hauteur? C'est pas là où elle performait le mieux en 2020. On oublie qu'elle était candidate à la présidence contre Joe Biden puis qu'elle n'a pas très bien performé. C'est sûr qu'on la prépare. C'est une femme qui a de l'expérience. C'est une femme qui, en passant, est intelligente. On peut aimer ou pas les idées, mais c'est quelqu'un qui a une grande intelligence. On va la préparer comme jamais. Mais il y a énormément de pression ce soir, considérant l'espèce de build-up ou de crescendo qu'il y a eu depuis le début de la semaine.
C'est un beau temps de qualité. Ça a répondu à plein de questionnements. On va te reparler, Luc, c'est certain, pendant la course américaine, c'est sûr et certain. En ondes ce matin, pour parler de politique américaine, il est spécialiste en politique américaine, Luc Laliberté du Cégep Garneau. Merci pour ton précieux temps. Je te souhaite une bonne journée, puis c'est certain qu'on te rappelle.
Ben écoute, continuez à nous faire jouer la meilleure musique dans les radios musicales. C'est toujours un plaisir de parler avec ceux qui sont à week-end, Martin. Bravo à toute l'équipe, puis bonne journée à tout le monde.
Merci, Luc. Oh, bye. Yes. Luc Laliberté, spécialiste en politique américaine.